Il fallait appuyer. Comme quoi, les boutons, c'est pratique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé vraiment une bonne semaine. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, cette semaine de jeûne et prière. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps à lire la Bible et puis à prier. Voilà, ça, on se sent rempli quand on prend ce temps-là avec Dieu. On va continuer ce matin la thématique sur le royaume de Dieu. J'ai intitulé ça « Le royaume de Dieu, je vis ce qu'il veut ». David a ouvert les festivités la semaine dernière avec le sujet du péché et il nous a encouragé à mettre à mort le péché dans nos vies. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé sur le site, ça serait bien qu'il y soit, s'il a été enregistré, ça serait super. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, allez l'écouter. Voilà, c'est une prédication qui est très très importante. Et ce matin, je voulais qu'on poursuive sur cette dimension du royaume en nous aidant à comprendre combien nous devons laisser Dieu influencer nos pensées et notre volonté pour vivre son royaume ici-bas. On va commencer par... j'ai ma zapette humaine. Ce verset très connu d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de mes pensées. » Waouh ! Parfois, on lit des versets assez rapidement. Je ne sais pas à quel rythme vous lisez la Bible, mais si vous lisez un certain volume, un certain nombre de pages, on s'arrête rarement à chaque verset, bien sûr. On lit, et puis il y a des moments où le Seigneur nous dit stop. Et sur ce genre de verset, parfois, c'est bien juste de s'arrêter. Quelle distance Dieu met entre sa pensée et ma pensée. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de commune mesure. Dans toute la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a plein de situations ou d'agissements. Il y en a une qui vient d'être citée pendant le temps d'offrande de la part de Dieu qui sont incompréhensibles et même parfois choquantes pour nous dans notre contexte d'aujourd'hui. J'en ai juste pris quelques-unes. Abraham et cette histoire où Dieu lui donne un fils et puis après il va lui dire tu vas aller le sacrifier. Et en plus il aura dit avant, mais moi je ne suis pas pour le sacrifice d'enfant. Qu'est-ce que tu me racontes Seigneur ? Gédéon qui pour aller gagner la guerre, il part avec 32 000 hommes et au final, grâce à Dieu, ils ne sont plus que 300. Elle est où la logique ? Elle est où la logique ? Ézéchiel, qui reçoit une parole du Seigneur, il lui dit « Bon, je te sens un petit peu fatigué en ce moment, tu vas te coucher 390 jours sur un côté et 40 de l'autre. » Mais pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Dans Luc 9, on a ce passage où Jésus dit « Ah, mais c'est, si, je les avais mis. Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça ne vous choque pas ? Moi, ça me choque, ce genre de parole. Qu'est-ce que tu me racontes, Jésus ? Ou le dernier que j'ai pris, c'est dans Matthieu 5, « Heureux les affligés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il y a plein de passages comme ça dans la Bible où on ne comprend pas. Ce n'est pas logique pour nous. La Bible nous appelle à sortir de notre système de pensée humaine. Et chez nous, en Occident, c'est la pensée logique et l'humanisme qui prédominent. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec certains passages de la Bible. Et Et Dieu nous appelle à le laisser lui nous conduire sur les chemins où la foi, l'espérance et l'amour ont priorité sur tout le reste. On va passer plusieurs semaines à parler du royaume de Dieu. Et je crois que c'est important, dès le début, de comprendre que ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec le monde dans lequel on vit. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Que ce soit dans le domaine du miraculeux, poser la main sur quelqu'un et puis hop, elle est guérie. Il n'y a rien de logique là-dedans. On peut même être pris pour des fous. Prier pour quelqu'un qui est mort et qui ressuscite, c'est bizarre. Et plein de miracles qu'on peut voir se manifester de diverses manières. Ça n'est pas lié à la logique. Et aussi, parfois, dans les difficultés qu'on traverse. Souvent, on a besoin d'aller chercher la logique dans ça. Et si on veut vivre dans le royaume, ce n'est pas toujours la meilleure réponse. Et ce matin, au vu du texte que j'ai choisi, on va se centrer... Merci. Le texte nous parle plus de la souffrance, mais on va passer aussi du temps dans ces semaines sur le reste. La pensée et la volonté de l'homme, j'aimerais commencer par là aussi, sont esclaves du péché. Est-ce qu'on le réalise assez, ça, que notre pensée et notre volonté sont esclaves du péché? Car l'homme a chuté dans sa totalité, complètement. Et il est complètement déchu, corrompu et infecté par le péché. Encore une fois, le message de David de la semaine dernière est très très important. À tel point que même mon raisonnement, mes désirs, ma volonté, eh bien sans Dieu, sans l'aide de Dieu, elles vont s'opposer à lui. On a ce verset dans Galates. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Voilà, c'est dit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À lui seul, ce verset évoque la bataille incessante du chrétien à l'intérieur de lui. Vais-je faire ou penser ce que je veux, ce que j'ai envie, ou vais-je désirer que Dieu soit le Seigneur de ma vie? Alors, on vient de passer une excellente semaine dans laquelle on a laissé justement la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit nous changer, nous consoler, nous fortifier, nous encourager pour la suite. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est la prière. Pourquoi ? Parce que je crois que la prière, c'est ce moment qui nous transporte. Quand on commence à prier, on est transporté dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière, où Dieu règne en grand roi, vainqueur du mal par le bien. Voilà comment Dieu règne. La prière, c'est ce moment où nous commençons à régner avec Christ dans son royaume à lui. Et ce que je voudrais ce matin, c'est nous inviter à passer un peu de temps dans un texte très connu, mais c'est l'intimité de la prière de Jésus à Gethsémané, pour réaliser à quel point nous avons besoin d'une transformation, d'un renouvellement massif, je pèse mes mots, d'un reboot, pour ceux qui sont informaticiens, complet de notre manière de vivre, de penser, pour vivre dans le royaume de Dieu maintenant. On va prendre le texte de Matthieu 26, si vous voulez prendre dans vos Bibles, sinon il est là. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu prier, veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levons-nous, allons, voici celui qui me livre, approche. » Je trouve que c'est incroyable que Jésus nous fasse vivre ce moment-là particulier de sa relation avec Dieu. Pour moi, c'est un honneur, c'est même un cadeau inestimable que Jésus nous fait là. C'est un moment crucial sur l'avenir de l'humanité. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il nous fait participer à son cœur, à ses luttes, aux batailles qui agissait dans son être intérieur. Jésus savait pertinemment ce qu'il allait devoir traverser. Il savait que dans les 18 prochaines heures, il allait vivre la trahison, l'abandon, la torture, l'humiliation, la solitude, une pression démoniaque déchaînée. Et ça allait se conclure par sa mort. Il savait tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut lire qu'il angoisse, il pleure, ses émotions sont dévastées. Le texte nous dit « il est triste jusqu'à la mort ». Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Eh bien, il se jette face contre terre et il supplie le Père. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus était bel et bien un homme, incarné dans une chair, qui ne pouvait pas supporter ce qui allait se passer. Est-ce qu'on le réalise ? Et alors qu'il est dans ce moment d'intimité avec son Père, avec Dieu, on pourrait retraduire sa prière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu ? Il est en train de lui dire « C'est trop dur !» Je ne peux pas, papa, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas mourir, aide-moi. Pitié, je n'arriverai pas à traverser cette épreuve, sauve-moi. Il y a tout ça derrière. Que cette coupe s'éloigne de moi. Et alors qu'il tombe face contre terre, comment il conclut ça ? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que j'ai envie de nous laisser ce matin, c'est ce morceau-là. Et c'est ce morceau-là qui change tout et qui a tout changé pour la suite. Alors qu'il est face à une épreuve terrible qu'aucun être humain ne pourrait supporter, il trouve la sagesse de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Waouh. Waouh. Et alors qu'il a fait cette prière, il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Et là, il faut qu'on aille dans le texte de Luc pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il se passe, parce qu'on ne l'a pas dans le récit de Matthieu. Et alors qu'il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Un ange est venu. Un ange est venu. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire, cet ange ? Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire à Jésus ? Et je crois qu'on peut, on trouve une partie de la réponse au verset, si tu peux, ah, si, ma zapette est toujours là, revenir en arrière, au verset 42. Quand Jésus s'éloigne une seconde fois, il prie à nouveau. Et longtemps, je pense que je lisais ce texte trop vite, je pensais que Jésus répétait trois fois la même chose. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est plus le même Jésus qu'on a là maintenant. C'est plus du tout le même. Et il dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Cette fois-ci, la deuxième prière de Jésus, c'est « Donne-moi la coupe, je vais la boire, car c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour moi et pour l'humanité entière. » Alors si on lit un peu superficiellement sa Bible, on peut dire ben, « Le Père, il n'a pas vraiment exaucé Jésus. » Jésus dit « Éloigne de moi cette coupe, sauve-moi. » Et Dieu lui dit, tu vas la boire. Et Jésus, lui-même, vient ici. Heureusement, on a un texte dans Hébreux 7 pour nous aider. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. D'accord ? Quand il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'était pas, il n'a pas philosophé. Il était avec des grands cris, des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé. Waouh ! Jésus a été exaucé à cause de sa piété et en étant exaucé, il a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus supplie le Père à grands cris, à chaudes larmes, de le sauver de la mort et Dieu lui envoie un ange pour lui dire « Je suis là pour te donner du courage ». Et la force d'aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bien, je crois qu'il était en train d'expliquer à Jésus qu'il va être vainqueur sur la mort. Je vais répondre à ta prière. Tu vas vaincre la mort. Mais comment ? Comment ? En mourant. En mourant. Rappelons-nous, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées, au-dessus de mes pensées, de vos pensées, dit le Seigneur. Tu vas vaincre la mort, tu vas terrasser la mort en mourant. Elle est où la logique là-dedans ? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Et cette réponse-là du royaume, Personne ne l'avait vu venir. Est-ce qu'on s'en rend compte? Remettons-nous à l'époque. Personne ne l'avait vu venir. Tous les disciples qui étaient autour de Jésus, qu'est-ce qu'il se passe? On le voit au verset 56, c'est après, mais je ne l'ai pas mis. Il est dit « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Personne ne l'avait vu venir. Personne n'avait compris comment Dieu allait répondre à la prière de Jésus. Comment Dieu allait sauver l'humanité de la mort. Il a fallu attendre une image plus grande. Il a fallu attendre la résurrection de Jésus pour comprendre que le Père exauce toujours le Fils. Amen. Il a fallu attendre une image plus grande. Je voudrais apporter un témoignage personnel par rapport à ça. Non pas que je me compare au Seigneur, bien sûr. Mais je crois que c'est le Seigneur qui m'a demandé de et qui m'a parlé par rapport à ce que j'avais vécu, ce qu'on a vécu ensemble avec Astrid, qui était mon épouse et qui était la maman d'Ethan. Et le but, c'est juste de montrer combien la Bible s'applique vraiment à nos vies. Il y a 10 ans de cela, j'étais marié donc à Astrid. Je rappelle un peu l'histoire parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. C'est la maman d'Ethan, mon grand garçon, qui est ici. Et suite à des examens médicaux, on a découvert qu'Astrid avait une tumeur cérébrale et les médecins lui donnaient 3 mois à vivre à l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons supplié Dieu. Dans les larmes, dans les cris, dans le stress, dans l'angoisse, car c'était une épreuve trop dure pour nous, pour notre famille, et je crois aussi pour l'Église. Et l'Église a été extraordinaire à ce moment-là pour nous. Je tiens à vous le redire. Et Dieu a répondu à notre prière, mais sans guérir Astrid. Et de 3 mois, elle a eu 7 années à vivre parmi nous. Et puis la maladie a repris un jour. Et alors, je m'en rappellerai forcément toute ma vie, j'étais dans ma cuisine et d'un coup je me sens attiré vers la fenêtre de ma cuisine. Et comme Jésus a eu cette visitation d'un ange, j'ai senti très fortement dans mon cœur la présence de Dieu qui était là et Dieu qui voulait me parler. Et il m'a dit, il est temps, je vais reprendre Astrid auprès de moi. Et à ce moment-là, j'ai répondu, d'accord Seigneur. Dieu m'a donné à ce moment-là, ce que je n'avais pas 7 ans auparavant, la force d'imiter Jésus et d'oser dire et penser, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. Et Astrid a rejoint le Seigneur 1 mois après. Dieu a-t-il répondu à la prière de son mari, de son enfant, de son église? Ma réponse est oui. Dieu a-t-il pris soin de la famille d'Astrid, de son église? Et est-ce qu'il continue de le faire? Ma réponse est oui, je suis devant vous. Je suis un témoignage vivant de cela. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas tout. Quand nous traversons une épreuve, nous avons peut-être besoin d'une image plus grande. Mais j'ai cette ferme assurance qu'à la résurrection des morts, nous dirons, oui Seigneur, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre ce que Dieu veut, que nous vivions et comme il veut que nous le vivions. Je vais répéter cette phrase. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre ce que Dieu veut que nous vivions et comme il veut que nous le vivions. Jésus, lui, il savait parfaitement comment vivre pleinement le royaume de Dieu. Il a répandu abondamment la grâce de Dieu au travers de guérisons, consolations, résurrections, divers miracles, des paroles de sagesse et plein d'amour qu'il a répandu et bien d'autres choses. Mais aussi, il n'y a pas de mais en fait, il n'y a pas d'opposition, et aussi il a su traverser les diverses épreuves liées à la condition humaine, au péché, toujours en glorifiant Dieu dans toutes ces choses. Et je crois qu'il nous invite, chacun de nous, à le vivre comme lui, à prier de la même manière que lui. Alors dans ce texte, on voit qu'il, si tu peux revenir, il a invité Pierre, Jacques et Jean à vivre ce moment avec lui. Et au travers d'eux, il nous invite, chacun de nous, à le suivre. Il nous invite à laisser les pensées de Dieu devenir nos pensées, à laisser les voix de Dieu devenir nos voix à nous. Parfois, sans comprendre, juste en lui faisant confiance. Et Jésus leur montre comment faire pour avoir la force de conclure avec ce « non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Il dira une chose essentielle à Pierre, Jacques et Jean, « soyez réveillés, réveillez-vous, ne dormez pas, ne laissez pas la paresse vous endormir, vous conduire dans un chemin où vous subissez la vie ». Ne sois pas trop fatigué pour prier, ne sois pas trop fatigué pour lire ta Bible, ne sois pas trop fatigué pour venir à l'église et bénir ton église. Réveille-toi. Réveille-toi. Voilà ce que Jésus dit. Réveille-toi. Si tu sens que la paresse vient, tue-la. Tue-la maintenant. N'attends pas. N'attends pas, parce qu'un jour c'est elle qui viendra pour te tuer. Fais-toi violence. Sois actif dans l'exercice de ta foi. Lis ta Bible. Prie tout le temps pour ne pas laisser la pensée du monde infiltrer ta relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus donne ce conseil-là, en fait? C'est quoi le risque, là? C'est quoi le risque dans notre vie chrétienne? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Arrêtons-nous juste 2 minutes sur ce verset, et après ce sera fini. Veillez et priez afin de ne pas, que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le risque n'est pas que la tentation va venir à l'extérieur de toi, elle va venir te chatouiller, elle va venir t'influencer de l'extérieur. Tu ne vas pas juste avoir une oppression extérieure. Mais le risque là, c'est que tu tombes dans la tentation. C'est que tu t'y trouves en plein milieu. C'est que tu t'assois là et que tu t'installes. Et que tu laisses la chair et le diable prendre le dessus et te pousser à faire quoi? Eh bien, tout simplement à renier Dieu, à renier sa bonté, à renier son amour pour toi. Combien de personnes autour de nous rejettent Dieu aujourd'hui après une épreuve difficile? Laissez-moi vous dire que peu importe ce que nous traversons, si nous laissons entrer dans notre prière, non pas ma volonté, mais la tienne, même Dieu enverra un ange, où il viendra lui-même, en personne, par le Saint-Esprit, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous guider vers la foi, vers l'espérance du ciel. vers la restauration de toutes choses. Je terminerai avec ce... Enfin, j'avais dit que c'était l'autre, mais c'est celui-là. Ce verset, Jésus qui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas utile au royaume de Dieu. » Laissons Dieu changer, nous changer complètement et à jamais notre manière de penser ou de voir les choses. Ne faisons pas un pas en avant et trois pas en arrière. Ne retournons pas à notre ancienne vie où le monde et ses tentations nous attiraient et dirigeaient notre vie et au final nous conduisaient loin de Dieu. J'ai mis qu'on va essayer pendant plusieurs semaines de comprendre un petit peu plus le royaume de Dieu. Mais j'ai envie de rajouter, pas avec notre tête, pas avec notre raisonnement humain, mais j'ai envie de nous encourager à plonger les deux pieds, ou la tête la première, comme vous voulez, dans le royaume de Dieu, et de laisser Dieu nous parler de son royaume à lui. Laissons-le diriger toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Prions, continuons à prier, supplions dans la joie ou dans les larmes, avec la musique et les danses célestes ou à grands cris, pour que Dieu agisse puissamment au milieu de nous, qu'il étende sa main, comme nous dit le livre des Actes, et qu'il se produise des signes et des prodiges, et même des miracles extraordinaires. Moi, j'ai soif de voir tout ça du royaume. Et puis, soyons pleinement conscients que c'est son royaume à lui, dans lequel il règne et fait tout ce qu'il veut. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va prier. Et puis, à la fin de la prière, à la fin de la prière, on prendra la Sainte-Cène, si vous voulez bien. Jésus, merci. Merci d'être venu, Seigneur, sur cette terre. Merci de t'être incarné en homme. Merci d'avoir porté nos souffrances, nos maladies, notre péché. Merci de l'avoir terrassé à la croix, Seigneur, d'être allé jusqu'au bout et d'avoir osé dire au Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, on a besoin que tu nous apprennes cela, Seigneur, vraiment en profondeur dans nos cœurs, Seigneur. Pardon. Pardon de vivre trop souvent une vie par nous-mêmes, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où les épreuves, Seigneur, de la vie ont pu nous éloigner de toi, juste parce que nous ne les comprenions pas. Et on veut te redire ce matin, Seigneur, mais à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Et rien ne pourra jamais entacher ta bonté et ton amour pour nous. Tu nous aimes, Seigneur. Et peu importe ce qui peut nous arriver, ça ne changera jamais, Seigneur. Ça ne changera jamais. On peut placer notre confiance en toi en étant pleinement dans la paix, Seigneur. Que tu entends nos prières et que tu y réponds. Tu y réponds, Seigneur. Tu nous délivres. Tu nous guéris. Tu nous restaures. Seigneur, apprends-nous durant ce temps où on va marcher dans ton royaume, Seigneur. Apprends-nous à vivre dedans, Seigneur. Change nos mentalités, change nos pensées, Seigneur. On a besoin d'un plein renouvellement de notre pensée, pour penser comme toi, Seigneur, pour te faire confiance, quoi qu'il se passe, pour aller au-devant des défis énormes, énormes. Tu as dit à 12 hommes, 11, d'aller conquérir le monde. Et c'est ce qui s'est passé, Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Ils ont osé marcher selon ton royaume, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à le faire jour après jour, Seigneur.